Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Jean-Philippe Toussaint, bonjour. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage qui s'appelle Football, qui est paru aux éditions de Minuit. Donc vous venez à la boîte à livres pour rencontrer vos lecteurs et auparavant vous avez accepté de nous consacrer un peu de temps, donc merci beaucoup. Alors pour commencer, tout simplement avec une métaphore sportive, puisqu'on est dans l'univers, y avait-il chez vous une part de jeu dans le fait de vouloir publier un livre qui s'appelle Football aux cérébrales éditions de Minuit?
Moi, j'ai toujours aimé de mélanger les contraires. Ça me plaît beaucoup ce mélange. Ça secoue un peu, ça réveille le lecteur avant même qu'il ait le temps de commencer. La première phrase du livre, c'est « Voici un livre qui ne plaira à personne ». Bon, c'est un peu surprenant d'écrire ça. Mais en même temps, il y a un fond de vérité. C'est vrai que généralement, les gens qui fréquentent les stades et les librairies sont pas les mêmes. D'un autre côté, c'est un peu une vue de l'esprit parce que il y a quand même des gens qui s'intéressent à la littérature. Et c'est peut-être aux gens qui s'intéressent à la littérature que je m'adresse, comme d'habitude. Donc il y a quand même un public, je n'en doute pas.
Et alors, est-ce que justement vous avez eu des retours un peu de ces deux milieux que vous présentez comme infranchissables, avec une frontière infranchissable dans cette première phrase? Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que vous avez été chroniqué par exemple dans l'équipe?
Eh bien écoutez, je fais une interview demain avec l'équipe à Paris. Je repars à Paris demain matin et j'ai une interview à 16h avec l'équipe. Et puis la semaine d'après, l'équipe magazine aussi m'a demandé pour un numéro spécial qu'ils vont faire début janvier. Que je leur donne une interview. C'est vrai que j'ai pas l'habitude c'est pas systématique. J'ai toujours Le Monde, mais j'ai pas à chaque fois l'équipe. Je me réjouis d'élargir. C'est vrai que c'est un sujet qui est très large, le football. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et moi, comme écrivain, je trouve que c'est assez logique que je m'intéresse à un sport qui fascine tant de monde. Il se trouve que moi, j'adore ce sport. Il se trouve que j'étais fan de football depuis petit et depuis enfant. Mais même si j'avais été pas si fan que ça, comme écrivain, je trouve qu'il est légitime d'aller voir ce qui se passe. Et, la Coupe du Monde, je crois, 98, mais même toutes les finales, s'il y a plus d'un milliard de téléspectateurs qui regardent ça, un milliard d'hommes regardent ces finales. Et puis, ça concerne... La société tout entière, enfin, je veux dire, tout le monde est concerné. Alors moi, je m'intéresse pas au football en tant que sociologue ou comme expert. Je m'y intéresse comme écrivain. Et donc le billet pour en parler, finalement, c'est l'enfance, c'est le temps, c'est de voir, ou plutôt d'identifier un temps qui est propre au football, c'est-à-dire que le football se consomme toujours dans le temps présent, dans le direct. Y a un suspense, on ne connaît pas le résultat final quand on regarde le match, ce qui crée une sorte de fascination plus grande. Donc il y a une réflexion plus large. J'ai commencé, la première fois que j'ai écrit un texte sur le football, c'était pour un journal, pour Libération. Je disais que j'associais le football au rêve et à l'enfance. Mais ça reste vrai.
Et alors justement, ces articles, donc à l'origine de ce livre, il y a effectivement des articles que vous avez publiés. Entre ces articles et le livre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'écriture? J'imagine que vous n'avez pas simplement collecté les articles dans ce livre, il y a eu vraiment une phase de réécriture. Qu'est-ce que vous avez travaillé spécifiquement dans cette phase?
Oui, il se trouve que j'ai écrit des articles sur le football et que j'ai repris certains éléments, mais c'est un vrai nouveau livre, c'est un vrai projet complet. Il y a toute une première partie où il y a une sorte de dictionnaire, de lexique poétique ou imaginaire, parce que je parle des maillots, je parle des stades, je parle de l'enfance, je parle du chauvinisme, je parle du temps, etc. Il y a un certain nombre de réflexions sur le football, de réflexions plus intellectuelles quand même. Donc, je reste quand même un écrivain qui pense. Mais il y a aussi une partie qui relate les Coupes du Monde, les unes après les autres, enfin à partir de 98, 2002, un énorme chapitre sur 2002, parce que j'ai passé un mois au Japon en 2002. Tous mes livres sont traduits au Japon, et la Coupe du Monde 2002 se passait en Corée, au Japon. J'ai eu l'idée de m'y rendre, d'organiser un programme de conférences dans des universités japonaises, et en même temps d'acheter des places pour aller voir les matchs. Et donc j'ai mélangé ma vie d'écrivain et ma passion du football. Et c'était une très belle expérience. Donc il y a un long chapitre sur le Japon. Puis après, il y a des chapitres à chaque fois. Et puis une dernière partie qui évoque cette Coupe du Monde 2014, la dernière, où là je passe à quelque chose de beaucoup plus autobiographique. J'évoque une sorte de crise que j'ai vécue, parce que à la fois je venais de finir un cycle romanesque qui m'avait occupé plus de 10 ans, mon père venait de mourir. Tout ça a été une période un peu difficile, et je pensais que cette Coupe du Monde 2014, je n'allais pas la suivre. Je n'allais pas m'y intéresser spécialement. Et puis, il s'est trouvé que j'ai quand même été voir en douce sur mon ordinateur pendant que j'écrivais. Sur Internet, j'allais voir les matchs de la veille. J'allais regarder les buts, donc quelques images. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, j'ai fini par regarder, par m'abonner et à suivre certains matchs en streaming, et ça a amené à la fois une vraie réflexion sur la création artistique, cette dernière partie, et une scène où je raconte la vision d'un match, une des demi-finales de cette Coupe du Monde en Corse, par une nuit d'orage qui devient une scène tout à fait presque romanesque, presque comme si c'était un roman. Et le jeu, c'est bien sûr moi. Mais d'une certaine façon, je deviens un peu un personnage de fiction, un peu un intellectuel qui ne peut pas résister au football et qui a un côté un peu ridicule, mais je l'assume et je le pousse, et j'essaye d'en faire aussi une scène assez, assez drôle.
Donc en fait, ce livre, c'est aussi un autoportrait de l'auteur en amateur, voire en obsessionnel de foot.
Oui, vous avez raison, il y a ce côté autoportrait. J'avais écrit il y a 15 ans maintenant, Autoportrait à l'étranger. Et il y a toujours cette dimension de l'autoportrait. Ça m'intéresse aussi de me prendre comme prétexte. En fait, il y a plusieurs prétextes. Le football est un prétexte de me peindre, ou de faire un peu comme quand Rembrandt faisait que des autoportraits de lui tout le temps. On pourrait soupçonner un narcissisme. En fait, c'est la peinture qui l'interrogeait. Et c'est tout le temps la peinture qui revient. D'une certaine façon, moi, c'est toujours la littérature que j'interroge. Que je fasse mine de parler de moi, ou que je fasse semblant de parler du football, ce qui m'importe, c'est de poursuivre une recherche sur et autour de la littérature. Et un peu de me dire, à chaque fois, qu'est-ce que je peux écrire maintenant? Et donc, il y a à chaque fois une réflexion plus large. Et donc, le livre s'appelle Football. Justement, ça a l'air d'être un livre très, très ouvert, ce l'est. C'est un livre qui parle de football, de la passion que j'ai pour le football, mais il y a aussi une réflexion d'écrivain.
Et vous renvoyez aussi, alors vous parlez d'autoportrait, mais en fait ça nous renvoie tous, et c'est aussi le tour de force de votre livre, c'est-à-dire que finalement, même quand on n'est pas amateur de foot, on se souvient de l'album Panini, de la Coupe du Monde qu'on faisait, ce que vous renvoyez vraiment à... Il y a plusieurs strates temporelles, il y a le direct du match, mais il y a aussi les souvenirs et la mémoire qu'on a tous finalement, malgré nous presque, par rapport au football.
Oui, comme écrivain, c'est mon devoir de m'adresser à tout le monde. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu comme réaction des gens qui me disaient, moi je n'aime pas du tout le football, ça m'intéresse pas du tout, mais ce livre m'a beaucoup plu. Voilà, c'est tout à fait une réaction que j'aime entendre. Alors que les gens qui aiment le football, que ça puisse plaire à des gens qui aiment le football aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas, il n'y a pas une obligation d'être un fan de football, c'est pas du tout un livre technique sur le football, c'est un livre qui, comme vous le dites, parle de mon enfance, et en parlant de mon enfance, je rejoins l'enfance d'autres personnes. Je rejoins la perception du temps du lecteur, les images de football, le passé, et le football est omniprésent. Même si on ne s'y intéresse pas, on a des liens avec le football.
Parce que finalement, ça construit comme une espèce de sablier géant, parce que vous parlez surtout des Coupes du Monde, donc qui reviennent tous les 4 ans, et effectivement, on a l'impression que ça ponctue comme ça l'histoire d'une société et de chacun d'entre nous finalement.
Oui, j'aime beaucoup cet imaginaire des Coupes du Monde. Vous avez parlé de la régularité temporelle, il y a aussi le comment dirais-je, le décorum, le fait que ces équipes nationales ont toujours les mêmes couleurs, plus ou moins, mais en même temps des couleurs qui vieillissent. Parce qu'en fait, certes, l'Allemagne joue toujours en noir et blanc, short noir, maillot blanc, mais si on regarde les images de 1954, c'est pas les mêmes que celles de 70, c'est pas les mêmes que celles de 98, et puis même à cette Coupe du Monde 2014, ils ont joué en rouge et noir. Alors là, je me moque un peu, c'est une sorte de maillot de rugby, on dirait Toulouse, on dirait Toulon.
C'est Stendhal ?
Oui, on dirait Stendhal aussi, c'est vrai, vous êtes plus cultivé que moi. Mais moi, je pensais plus particulièrement à Toulon et à Toulouse, au rugby. Voilà. Autre passion, mais pour l'instant, je n'en suis qu'au football.
Et alors, est-ce qu'en plus, on ne peut pas dire que finalement, chaque match de foot, c'est une matière romanesque absolument délicieuse, avec tous les registres comiques, tragiques, épiques ?
Ce qui m'a surtout intéressé, moi, c'est le rapport au temps. C'est comment le football induit un suspense qui est lié au fait qu'on ne connaît pas l'avenir. Alors, j'élargis ça. Là, il y a presque une vision, un regard philosophique. L'avenir se dévoile au compte-gouttes. Seconde après seconde, on le découvre. Et donc, on est pris. On est presque hypnotisé si on s'y intéresse un tout petit peu. Il faut un tout petit peu s'y intéresser. Si on trouve que ça n'a aucun intérêt de savoir qui va gagner, évidemment, ça ne le fait pas aussi bien. Mais si on s'y intéresse un tout petit peu, il y a un rapport au temps qui est très intéressant, et c'est peut-être aussi lorsque j'ai identifié ce rapport au temps très particulier du football que je me suis dit qu'il y avait matière à écrire un texte.
Alors justement, à ce propos, j'ai trouvé une citation de Jean-Luc Godard qui parle de football, il a beaucoup écrit sur le football, j'ai découvert ça, et alors qui est un peu l'opposé complet de ce que vous dites, puisqu'il écrit « Ce qu'il faudrait, c'est filmer le match en direct avec beaucoup de choses, mais ne pas le donner à la télé, et ensuite, deux ou trois mois après, montrer le film de la Coupe du Monde, par exemple. La Coupe du Monde au Brésil, vous la laissez se jouer, mais pas de télévision, et trois mois après, vous montrez le film. » Alors, du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est complètement opposé à ce que vous dites, vous, dans votre livre.
Oui, et d'ailleurs, je pense que je comprends ce que dit Godard, c'est une expérience, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Si vous proposez aux grandes chaînes qui ont diffusé le football, de ne diffuser aucun match, mais de faire dans trois mois une œuvre confiée à un grand créateur, que ce soit Godard ou n'importe quel grand créateur, un seul film de trois heures sur l'ensemble de la Coupe du Monde, c'est pas sûr que ça remporte l'unanimité. Mais je comprends bien ce qu'il veut dire. Lui, il ne s'intéresse pas nécessairement à ce direct parce qu'il recherche une autre forme. Et c'est vrai que du côté de la forme, le football est un peu pauvre parce qu'il n'y a pas cette recherche formelle par les télévisions parce que ce qui importe, c'est de montrer le match, tout simplement. Mais le rapport au temps que j'identifie, c'est une observation. J'observe la réalité de la façon dont le football est consommé, la façon dont le football est vu. Et là, il y a un rapport avec le temps. Et si on casse ce rapport avec le temps, on passe à autre chose. Et donc, je veux bien accepter la proposition de Godard. Pourquoi pas ? Ça peut être très intéressant. Il y a aussi un artiste contemporain qui a fait un film sur Zidane, tout à fait fascinant, donc qui a mis 20 ou 30 caméras sur Zidane pendant tout un match de la Liga espagnole. Et ensuite, il en a fait, c'est Philippe Parreno, et ensuite, il en a fait une œuvre d'art qui s'appelle Zidane, je crois, où avec une quinzaine d'écrans, on voit Zidane tout le temps et que Zidane. Donc le football, à ce moment-là, est déconstruit d'une certaine façon. Ça peut être très intéressant, c'est pas nécessairement ma démarche.
Alors justement, il y a une dimension visuelle très importante dans votre livre, alors notamment les couleurs. Vous parliez des couleurs des maillots tout à l'heure, mais vous parlez aussi de la couleur de la pelouse ou votre casquette rouge avec laquelle j'ai du mal à vous imaginer. Je voudrais une photo de vous avec votre casquette de la Belgique, donc. Et est-ce que donc vous avez adapté et vous réalisez plusieurs films. Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement d'un jour réaliser un film autour du football?
Oui, je passe pas nécessairement un film de fiction, mais ça m'intéresserait beaucoup plus, encore une fois, de partir de la réalité et après d'aller vers la fiction. Mais en fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait pour Arte, et plutôt pour un programme particulier d'Arte qui s'appelle Blow Up, c'est-à-dire pour le web d'Arte. Et d'ailleurs, on peut toujours les voir, ça existe toujours. Ça s'appelle Une brève histoire du football. Et j'ai fait 4 petits films de 5 minutes, qui mélange le football, l'histoire et le cinéma. Et donc, il y a un, c'est la préhistoire. Alors, j'ai trouvé des images d'archives incroyables avec des photos, des images, des vidéos en noir et blanc, avec des moments où il y avait 200 personnes sur le terrain, même pas un terrain, une pelouse, enfin, des images incroyables. Puis des images assez comiques avec des joueurs en noir et blanc, des vieux films où ils rentrent. C'est un peu saccadé, enfin, c'est un côté amusant. Puis après, j'ai fait les années 60. Et les années 60, j'ai mélangé les grandes images des années 60, la grande finale de 66 à Wembley entre l'Angleterre et l'Allemagne, aux grandes images des années 60, c'est-à-dire les Beatles, c'est-à-dire l'assassinat de Kennedy, c'est-à-dire le Vietnam. Et j'ai fait la même chose pour les années 70 et pour les années 80. Donc je l'ai fait aussi, ce regard, cette façon à la fois d'essayer de faire de la forme avec le football. Je l'ai fait aussi à l'image.
Alors pour finir, j'ai une dernière citation, je fais mon Fabrice Lucchini. J'ai trouvé une citation de Pasolini, qui lui aussi a écrit de très beaux articles sur le football, et qui dit « Chaque but est toujours une invention, il est toujours une perturbation du code. Il a toujours quelque chose d'inéluctable, de fulgurant, de stupéfiant, d'irréversible. C'est précisément ce qui se passe aussi avec la parole poétique. Le meilleur buteur d'un championnat est toujours le meilleur poète de l'année. » Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben, c'est très beau. J'ai découvert tout ça. J'ai découvert les écrits de Pasolini. Sur Godard, je savais certaines choses. Je savais que Godard aussi critiquait la façon dont le football était filmé avec des caméras de la télévision, etc. Sur Pasolini, j'ignorais qu'il avait autant écrit sur le football. Ce que vous avez lu me plaît beaucoup. Il y a aussi une chose qu'il a dite, Pasolini, que j'ignorais avant d'avoir écrit football, mais que j'ai découvert, c'est une très belle métaphore. Il dit qu'il y a un football de prose et un football de poésie. Et je trouve ça très beau. Et donc voilà, il y a, je ne suis pas le premier intellectuel à m'être penché sur le football.
Comme quoi Pasolini aurait lu votre livre, je pense. Merci beaucoup Jean-Philippe Toussaint, je vous laisse retrouver vos supporters qui vous attendent de l'autre côté, et merci beaucoup, au revoir.
Merci, parfait.
C'était l'interview des Poches sous les yeux, en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessouslesyeux.fr ou encore la page Facebook des Poches sous les yeux.